Il est 6h.
Un bureau de renseignement pour l'organisation terroriste palestinienne se trouvait dans cet immeuble. Donc c'est une cible parfaitement légitime.
Benjamin Netanyahou justifie le bombardement du bâtiment de l'agence de presse AP à Gaza, alors que Reporters sans frontières saisit la Cour pénale internationale. La tension ne retombe pas. Savez-vous ce que vous ferez de vos premières heures de liberté mercredi? Si vous avez un peu de sous de côté pour un étoilé, pensez à réserver. Et puis le Titanic, comme si vous y étiez, mais en pleine campagne chinoise. C'est la découverte insolite de la fin de ce journal.
Après ce journal, le journal des sports de Simon Rubin et puis mon invité inattendu. Il est l'homme derrière le costume de Marianne qui a beaucoup fait parler, celui porté par Miss France au concours Miss Univers qui vient de s'achever. Itinéraire et secret d'un jeune styliste normand qui a habillé les plus grandes stars. Très bon réveil sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'actualité, c'est cette nuit de violence encore au Proche-Orient. 42 Palestiniens tués hier à Gaza. C'est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'affrontement entre Israël et le Hamas il y a une semaine. De son côté, Reporters sans frontières porte plainte devant la Cour pénale internationale après le bombardement israélien du bâtiment qui abritait l'agence AP et la chaîne de télé Al Jazeera à Gaza. Frappe dont s'est justifié le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Il s'agit de terroristes palestiniens. Un bureau de renseignement pour l'organisation terroriste palestinienne se trouvait dans cet immeuble, qui prépare et organise des attaques terroristes contre des civils israéliens. Donc c'est une cible parfaitement légitime. Et je peux vous dire que nous avons pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes civiles. En fait, pas de morts, pas de blessés, d'aucune sorte.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que la diplomatie, elle, piétine, aucune proposition n'est ressortie de la troisième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier.
Sur le plan de la situation sanitaire, est-ce que vous commencez à sentir cette petite odeur de liberté? Et oui, plus que deux jours avant la prochaine étape du déconfinement.
Et oui, nous allons pouvoir rester deux heures de plus dehors. Le couvre-feu est repoussé à 21h. Les terrasses vont rouvrir, celles des bars et des restaurants. Tout se passera à l'extérieur et à 6 maximum. Et si vous avez fait des économies et que vous comptez vous payez un étoilé, eh bien il va falloir un peu patienter. Ils sont pris d'assaut, Maud Descamps.
Pour obtenir une table chez Alexandre Mazia à Marseille, il faudra attendre le mois de décembre avec une troisième étoile tout juste décrochée. Les clients se bousculent.
On a plus de 3900 réservations qui attendent, dont on n'a que 24 couverts et on est ouvert à 8 services. Donc il va falloir être patient.
Même chose pour le chef triplement étoilé Christophe Bacquier au Castellet qui a dû embaucher du personnel.
Comparé à l'an passé où il y avait juste une personne aux réservations, ben là on s'est armé. Elles sont deux filles aux réservations, plus notre chef de réception et une quatrième personne qui vient en renfort à partir d'aujourd'hui. C'est environ une centaine de mails par jour à traiter en ce moment.
Un grand nombre de demandes, mais aussi des contraintes sanitaires à respecter. Alors les chefs s'adaptent, explique David Bizet du Peninsula à Paris.
Une possibilité de all-day dining, c'est-à-dire à partir de midi, de pouvoir déjeuner à n'importe quelle heure jusqu'au soir. Une carte aussi plutôt orientée tapas fin de soirée. On a essayé d'être au plus proche de la demande de nos clients.
Des clients essentiellement français pour le moment, beaucoup d'habitués, mais aussi quelques novices qui, après une année de privation, fêtent la réouverture des restaurants en s'offrant le meilleur de la gastronomie française.
Maud Descamps pour Europe 1, ça donne faim.
All day dining, on peut aussi ça appeler le déjeuner, on va dire.
Tout à fait.
Benaïk Mouni. On va donc retrouver un peu de vie sociale. C'est vrai que l'isolement a pesé à de nombreux Français, mais certains vont devoir se réacclimater.
Oui, on va s'intéresser ce matin aux animaux des zoos qui ont dû apprécier de se retrouver un peu entre eux pendant toute cette période. Nicolas Feldman s'est rendu à celui de Beauval pour voir comment on prépare éléphants ou autres félins à revoir du public humain.
Lisa va pointer avec sa main gauche son index vers la bouche de Paco. Elle va dire le mot « bouh ».
Les otaries n'ont rien oublié des consignes. Plus de 6 mois de fermeture au seul contact des soigneurs. Il faut maintenant les réacclimater à la foule.
Les animaux sont plus du tout habitués aux visiteurs. Ça fait quelques semaines qu'on recommence à leur mettre les musiques de spectacle. On voit que ça n'a pas d'impact sur elles. On fait beaucoup de séances au niveau des vitres aussi, pour les habituer aussi à voir du monde passer, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elles n'ont vu personne. Donc on les réhabitue vraiment petit à petit.
Dans les allées du parc, le directeur supervise les derniers préparatifs.
Ça va aller Franck, tout va être prêt pour le 25.
Rodolphe Delors n'est pas inquiet pour les quelques 800 espèces recensées dans son zoo.
Nos animaux, nous ne les débranchons pas pendant cette période. Nous avions 250 salariés qui travaillaient, et soigneurs, et vétérinaires, et biologistes, de façon à ce que nos animaux ne souffrent en aucun cas de ces périodes de confinement. Ils ne seront pas dérangés par le public.
D'autant qu'à sa réouverture, le zoo va devoir réduire ses capacités d'accueil de 50%. Le retour à la normale est prévu pour le 30 juin. Au zoo de Beauval, Nicolas Feldman, Europe 1.
6h05, vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on reparle de votre santé. C'est aujourd'hui la journée internationale de l'hypertension. Nos conseils pour la dépister et tout bien savoir. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
6h07, la suite de votre journal Lénaïc Monnier. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'hypertension, maladie dont souffrent de nombreux Français, mais tous ne le savent pas.
Oui, un adulte sur trois a une tension trop élevée et la moitié l'ignore. Or, vous le savez, cela augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Il faut donc se faire dépister dès qu'on a passé les 40 ans. Comme le rappelle le professeur Jean-Jacques Mourad, il est chef du service de médecine interne du groupe hospitalier à l'hôtel Saint-Joseph à Paris.
Aujourd'hui, en 2021, il n'est pas logique de connaître son poids à 200 grammes près grâce à des balances hyper sophistiquées et d'ignorer son niveau de pression artérielle. Il existe des centaines de façons d'avoir accès à une mesure de la pression artérielle fiable via les appareils qui existent dans des millions de foyers français, chez le pharmacien, chez un ami, en médecine du travail. Et surtout, dès qu'on change radicalement de comportement de vie, se sédentariser, prendre plus d'un kilo par an, c'est des facteurs qui vont courir un risque d'installer une hypertension artérielle. Ça va être l'occasion de la fête des pères et de la fête des mères, d'acheter et d'offrir un appareil à ses parents après 40 ans. C'est peut-être plus intelligent que de lui offrir une énième cafetière.
Le professeur Jean-Jacques Mourad qui répondait à Anne Le Gall et autres facteurs qui augmentent le risque d'AVC. Travailler plus de 55 heures par semaine, c'est l'OMS qui le dit après une longue étude. Au-delà, le risque augmente de 35%. La plupart des décès qui ont été enregistrés concernaient des personnes de 60 à 79 ans qui avaient travaillé pendant plus de 55 heures lorsqu'elles avaient entre 45 et 74 ans.
On termine Lénaïc Monnier avec le mystère du Titanic qui continue de fasciner 109 ans après, à tel point qu'en Chine, un parc d'attractions va lui être consacré.
Et on est très très loin de l'océan puisque nous nous rendons au beau milieu de la campagne chinoise. Une réplique grandeur nature du bateau a commencé à sortir de terre au milieu des champs. Sébastien Lebelzik.
Elle ne ressemble pour l'instant qu'à un vaste amas de tôles entouré d'échafaudages. Mais cette reproduction grandeur nature du Titanic est une copie comme seuls les Chinois savent en fabriquer. De la salle à manger aux poignées de porte, tout est conforme à l'original qui gît toujours par 4000 mètres de fond. L'idée a germé dans l'esprit d'un millionnaire, Su Xiaojun, passionné par l'histoire du paquebot géant, mais surtout homme d'affaires avisé.
Nous allons attirer des touristes du monde entier. On estime le nombre de visiteurs entre 2 et 5 millions chaque année. Avec une telle fréquentation, le retour sur investissement est assuré.
Les visites se feront au rythme de la bande originale du film. Clin d'œil encore au cinéma, c'est Bernard Hill, l'acteur britannique qui jouait le rôle du capitaine dans le Titanic de James Cameron, qui prendra la barre lors de la cérémonie d'ouverture.
Tout cela a été fait de manière très délicate et respectueuse.
Après 6 ans de travaux et 150 millions d'euros investis, ce Titanic Land devrait accueillir ses premiers passagers à la fin de l'année pour de vraies fausses croisières sur la terre ferme, facturées quand même 250 euros la nuit. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Sébastien Lebelzik dans le journal de Lénaïc Monnier. Merci Lénaïc, il est 6h10.